les podcasts de Vatican News.
Les Burundais votent pour une nouvelle constitution. Un référendum est organisé dans le pays ce jeudi 17 mai. Objectif pour le président Pierre Nkurunziza, réorganiser à son avantage la loi fondamentale du pays. Le scrutin s'annonce comme une simple formalité. L'opposition politique, les organisations de la société civile et les médias sont muselés. Les évêques du pays dénoncent un climat de peur. Ils jugent que le moment n'était pas opportun et craignent qu'une modification de la constitution n'exacerbe les rancœurs dans un pays marqué par des années de guerre civile. Le projet a été officiellement dévoilé il y a une semaine, mais de grandes zones d'ombre entourent le texte. Difficile par exemple de savoir combien de temps Pierre Nkurunziza, en poste depuis 2005, restera à la magistrature suprême. C'est ce que nous explique Emmanuel Klimis. Il est chercheur en sciences politiques à l'université Saint-Louis de Bruxelles, spécialisé sur le Burundi.
Jusqu'à il y a très très peu, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Ça alimentait énormément de fantasmes. La lecture que la communauté internationale en fait, c'est qu'il y a la volonté de la part du président Nkurunziza de se maintenir au pouvoir au-delà des mandats qui sont prévus dans le fonctionnement actuel de la législation et de la constitution burundaise. Donc on passerait d'un système avec un président et deux vice-présidents à un système avec un président de la République et un premier ministre. Et d'autre part, surtout, pour l'instant, si vous voulez, la constitution actuelle, elle précise que personne ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels. Et le projet de réforme de la constitution dit que nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Et donc, est-ce que la Constitution va remettre les compteurs à zéro? Enfin, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore la réponse. Pour le reste, le projet de Constitution permet de rendre plus difficile le fait de proposer d'autres partis politiques et de les mettre au gouvernement, le fait de proposer d'autres candidats à la présidentielle et que, du coup, ça rend plus difficile l'accès au pouvoir.
Et comment s'est déroulée la campagne de ce référendum?
De façon extrêmement chaotique, à l'image de ce que le pays connaît comme situation depuis 2015, c'est un climat de peur, c'est un climat de contrôle très très fort de la part du gouvernement, c'est un climat de fermeture de l'espace de parole et de l'espace public, c'est un climat de critique très très forte de la communauté internationale et parfois même une forme de complot et de guerre qui aurait été préparée, hein, pour reprendre la rhétorique du parti à cet égard. Donc les conditions ne sont pas des conditions spécialement rassurantes. Et ne sont pas des conditions d'ouverture et de dialogue. L'opposition burundaise en exil est complètement éjectée du processus. Donc, le Burundi est en train de se fermer par rapport à la communauté internationale. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qui s'y passe et la situation se durcit. Donc la campagne n'a pas vraiment fait l'objet de discussions ouvertes et de francs débats publics.
Et de quels moyens de pression, de contrôle dispose le président Pierre Nkurunziza?
Ils sont absolument gigantesques. Le président dispose de la loyauté indéfectible de la police nationale. Il contrôle les services nationaux de renseignement, le SNR, et qui ont cette réputation sulfureuse de police politique qu'on accuse de mener des arrestations arbitraires, de la torture dans les lieux de détention et éventuellement des exécutions qui sont cachées. On retrouve énormément de cadavres dans la campagne, dans les lacs, dans les rivières et dans la forêt. Et puis surtout, le gouvernement actuel, il contrôle l'information. Les médias nationaux ont été muselés, il y en a qui ont été détruits, littéralement, physiquement détruits. Et même des médias internationaux ont de plus en plus de mal à fonctionner au Burundi. Donc le contrôle, il est justifié dans le discours gouvernemental par la nécessité de lutter contre une forme d'instabilité politique. Et il est présenté dans le discours gouvernemental comme une forme de mal nécessaire qui aboutit à des résultats, puisque dans le discours, le Burundi aujourd'hui est un pays en paix dans lequel il n'y a plus de difficultés et plus de problèmes. Et il n'y a pas grand-chose qui sert de contre-pouvoir ou d'équilibre comme on en connaît dans d'autres systèmes ou dans ceux qu'on imagine idéaux de notre côté.
Et il y a également les Imbonerakure.
On les appelle des milices contestées par le gouvernement. Enfin, ça représente quand même des milliers et des milliers de jeunes du parti qui sont déployés dans l'intégralité du pays. Ils sont sous la responsabilité de membres du parti qui accèdent ensuite à des fonctions officielles. L'ancien patron, Nadine Bonnevacouré, vient de devenir ministre des Affaires étrangères lors de la dernière recomposition gouvernementale il y a quelques semaines. Et donc, ces Imbonerakure sont en train de suivre, ça fait maintenant 3 ans et voire davantage, un entraînement militaire, que certains sont armés. Il y a des déclarations de la part des Imbonerakure, des chants d'appel à la haine, des arrestations par rafle, des bastonnades, enfin ce genre de choses. C'est pas un réseau parallèle qui se crée indépendamment du contrôle des autorités burundaises. C'est un outil des autorités burundaises.
Et face à ce panorama pas très rassurant, quel avenir pour le pays?
Les pressions internationaux sont très très faibles. Tout ce qui est médiation régionale via l'Union africaine, via l'East African Community, n'ont pas donné jusqu'ici de résultats, il y a trois personnalités politiques, d'anciens présidents de la République, d'autres pays, etc., qui ont tenté une série de médiations dans la crise burundaise actuelle, et jusqu'ici, ça n'a donné absolument aucun résultat. Donc, les perspectives ne sont pas spécialement au changement et à l'amélioration de la situation. Il va surtout falloir observer comment est-ce que la situation sur place va évoluer dans les semaines à venir. Mais pour être tout à fait honnête, si on avait voulu une réaction internationale cohérente, elle aurait dû venir plus tôt.
Des propos recueillis par Joris Bolomé.